7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, c'est l'été chez 7 milliards de voisins. Et pour vous, tous les jours cette semaine, voici une invitation au voyage dans une ville du monde, racontée par des journalistes de RFI. Ensemble, nous poussons les portes des appartements, nous écoutons les joies, les tristesses des habitants, dans les cages d'escalier, au marché, dans les tramways, dans les vies ordinaires, comme dans les événements officiels finalement. Hier, nous étions à Islamabad, la ville artificielle, qui ne ressemble à aucune autre au Pakistan, tellement elle est ordonnée. Et aujourd'hui, vivre dans une ville aux deux visages, Budapest, en Hongrie, racontée par Florence Labruyère. Bonjour Florence.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
On est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Vous êtes correspondante de RFI, installée dans la capitale hongroise depuis près de 30 ans, non ?
C'est ça, oui, à peu près.
Pourquoi vous avez choisi ce titre, Budapest, une ville aux deux visages ?
Eh bien écoutez, parce que en fait, Budapest, c'est une construction de deux villes. Elles ont longtemps été indépendantes, jusqu'en 1873. C'est seulement à ce moment-là qu'elles se sont unifiées. Et il y avait Buda d'un côté et Pest de l'autre, séparés par le Danube, qui sépare et unit les deux villes en même temps. Et d'ailleurs, sur des vieilles gravures allemandes, on voit le nom de la ville qui s'écrivait alors Pest-Buda, c'était à l'envers.
Oui, parce que vous qui parlez parfaitement hongrois, Florence Labruyère, Buda, ça veut dire « au Bouddha ».
Alors « au Bouddha », ça veut dire « le vieux Bouddha ». On ne sait pas très bien d'où vient ce mot « Bouddha » en hongrois. Mais en tout cas, ce sont ces deux mots qu'on a unifiés qui sont devenus Budapest.
Et Pest, ça veut dire sur la rive droite ou pas ?
Non, on ne sait pas non plus quel est le sens de cette signification. Il y a plein de noms propres qui n'ont pas de signification. Hein. C'est le nom de cette ville qui est donc sur la rive droite du Danube. Alors pourquoi deux visages cette ville ? Parce que les deux rives sont très différentes. Pest, c'est assez plat. Et c'est de grandes avenues tirées au cordeau, avec dans les environs beaucoup de bars de HLM, de quartiers périphériques avec des HLM. Et puis de l'autre côté, dès qu'on franchit le Danube, il y a plusieurs ponts, hein, sont des collines. C'est une ville de collines. Pour ceux qui connaissent Lyon, hein, où il y a aussi des villes, il y a deux fleuves à Lyon, là il n'y en a qu'un. Mais il y a d'un côté la plaine et de l'autre les collines.
Et vous habitez à Buda, Florence ?
Alors moi en ce moment j'ai beaucoup habité à Pest, hein, mais je suis venue chercher le calme et la fraîcheur des collines, effectivement.
Dans un quartier, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, oh, j'habite dans un petit bloc de béton affreux, mais en fait c'est super.
Oui, absolument, oui, c'est un petit bloc de béton à deux étages qui a été construit au début des années 70, donc avec des matériaux bon marché, du carrelage, du béton. Alors il fait très très chaud en été, malheureusement, c'est pas vraiment très bien isolé, mais en même temps il y a des arbres pas loin, mes fenêtres donnent sur un jardin, et puis c'est à la fois c'est dans un quartier résidentiel de Buda, mais en même temps il y a des gens assez pauvres qui habitent dans ce quartier. Dans mon immeuble, il y a des couples de retraités essentiellement qui n'ont vraiment pas beaucoup de sous, quoi, parce qu'ils habitent là depuis longtemps. Alors depuis le temps qu'ils habitent, tout autour, il y a de belles villas luxueuses et des beaux immeubles qui se sont construits, mais voilà, eux ils ont pas bougé, c'est le quartier qui s'est un peu embourgeoisé.
Voilà, ça y est, on est installé avec vous, Florence Labruyère, à Budapest, où il fait frais en cet été continental, en tout cas aujourd'hui, près de 30 degrés.
Oui, il fait seulement 30 degrés, parce qu'il peut faire jusqu'à 40 en été à Budapest. Hein.
Et vous signez le programme musical de l'émission, et je vous promets, les voisins et les voisines, que vous allez entendre des tubes que vous n'entendrez nulle part ailleurs, un programme que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment la page Instagram 7 milliards RFI. Allez, on va démarrer avec une voix qui nous emporte loin sur le Danube. Je vous laisse l'annoncer, parce que vous parlez beaucoup mieux hongrois que moi, Florence.
Alors, c'est un groupe qui s'appelle Halott Pénz, ça veut dire « argent mort ». Oui, oui, c'est ça le nom du groupe. Et ils chantent « Szívedből mindenkell », ça veut dire « il faut donner tout son cœur, il faut vraiment pas faire les choses à moitié, quoi. Il faut mettre tout son cœur dans ce qu'on fait ».
Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, a félig elmondott titkok között a hazugság mindig megmarad. Tudom jól, mindenki máshogy látja a világot, vallást, politikát, de az igazi nyertes az lesz majd, aki legyőzi végül önmagát.
Hát félig nem élet, az élet már rég, a szív mit ér, ha félig ég.
Szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardul. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Úgy érzed padlón vagy, úgy érzed padlón vagy, nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed, dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár ránk. Tudom, az esőre várhat az erdőre várhat a fényre várhat az éj, de másra nem várok én.
Mert félig nem élet, az élet már rég, a szív mit ér, ha fél.
Szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel.
Vivre à Budapest, la ville aux deux visages, avec Florence Labruyère, correspondante pour RFI, qui est installée depuis des années à Budapest et qui signe le programme musical. On vient d'entendre Florence, le groupe Arlotte Pence, c'est un groupe avec que des garçons.
Oui, oui, je les ai découverts dans un festival à Budapest, le festival Sziget, qui va bientôt commencer, là, qui redémarre le 10 août, du 10 août au 15 août. Il y a beaucoup de scènes différentes, c'est un festival qui a lieu sur une île, il y a au moins une dizaine de scènes différentes, et c'est ça qui est bien dans ce festival, parce qu'il y a des grands noms, des grosses pointures, mais moi j'y vais surtout pour découvrir les petits groupes que je ne connais pas, et donc il y a plusieurs années, j'ai découvert, il y avait un monde fou devant cette scène, ils ont joué tard, parce qu'ils n'étaient pas connus, ils ont joué à minuit, il y avait monde et une ambiance extraordinaire. Et depuis, je les suis assez régulièrement.
La musique est très omniprésente dans la vie des habitants à Budapest.
Oui, je dirais même pour le passant, à Budapest, c'est pas rare de marcher sur un trottoir puis d'entendre de la musique qui s'échappe d'un soupirail. Il y a beaucoup de caves dans ces grands immeubles qui sont loués comme des entrepôts ou qui sont loués à des groupes qui répètent, ou de la musique qui s'échappe des fenêtres d'une école de musique. En Hongrie, il y a des écoles primaires qui sont écoles primaires publiques, hein, où on fait énormément de musique, où la moitié des cours qui sont donnés aux petits, c'est de la musique.
On apprend à lire les notes, le solfège.
Voilà, et on apprend... Alors, Pas vraiment de solfège. Moi, j'ai fait un peu de musique quand j'étais petite. Le solfège, c'était mon cauchemar. Les Hongrois sont très malins. Ils ont inventé une méthode pour enseigner la musique aux enfants de façon ludique et de façon amusante. Donc, si vous vous souvenez...
La fameuse méthode Kodály.
La fameuse méthode Kodály. Donc, dans la méthode Kodály, oubliez les croches pointées, les noires, les rondes, dont on ne sait pas ce que ça veut dire. La méthode Kodály, c'est très simple, c'est mathématique. En fait, ça se divise comme des chiffres. C'est-à-dire c'est 16, 8, 4, 2. Voilà, les notes sont la moitié des autres. Voilà.
Mais cette musique, elle fait partie des racines culturelles, hein, de la Hongrie, de Budapest, un petit peu comme à Vienne finalement, hein,
oui.
Où l'apprentissage de la musique fait partie de l'accès à la culture générale de son pays.
Oui, tout à fait. Peut-être la différence avec Vienne, c'est que la langue hongroise est une langue musicale, c'est-à-dire qu'il y a une règle, un peu comme une règle de grammaire en hongrois, qui est la vocalisation harmonique. Donc le petit hongrois qui naît, le bébé qui naît, il entend la musique de la langue dès qu'il est né. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on a un son court, ben si on construit un mot à partir de ce son, par exemple, cheur, ça veut dire bière. Cheur, c'est un mot court, c'est un son court. Si je veux dire brasserie ou bar à bière, je vais rajouter des sons courts. Cheureuse. Bor, en revanche, c'est un son long, ça veut dire vin. Si je veux dire bar à vin, il faut que je rajoute des sons longs. Boroso. Et la langue, elle chante de la musique, en fait.
Elle chante de la musique. Et bien évidemment, il faut qu'on parle de ce tourisme festif. Hein. Vous m'y avez invité, là, finalement, le verre à la main. Parce que pour les jeunes Européens, Budapest, c'est les boîtes, les bars. Ce sont des quartiers avec des découvertes musicales. Dans quelle mesure c'est un problème pour les habitants, des nuisances, ou finalement ça reste aussi la carte d'identité de la ville aujourd'hui ?
Ça reste toujours la carte d'identité de la ville. Bon, il faut dire que le Covid a donné quand même un grand coup à ce tourisme festif. Hein. Mais avant 2020, c'est vrai qu'il y avait des dizaines de milliers de jeunes Anglais, Hollandais, Allemands, Français qui venaient faire la fête à Budapest. Dans un quartier tout petit, c'est le quartier, ce qu'on appelle le quartier juif historique. C'est vraiment quelques rues, un petit carré de rue. Où des immeubles étaient un peu décatis, ou des bars, qu'on appelle des bars de ruines d'ailleurs, parce que des bars s'étaient installés dans des cours abandonnés. Ça a commencé comme ça. Et c'est devenu un problème parce qu'effectivement, ces dizaines de milliers de touristes se sont concentrés dans ce tout petit quartier où habitaient des gens. Moi, je connais des gens qui ont déménagé. J'ai une amie qui a déménagé parce qu'elle supportait plus le matin, quand elle emmenait sa fille à l'école, d'être obligée de joncher entre les mégots, les préservatifs, les flaques de vomi. Voilà, je vous cache rien. C'est à ça que ressemblaient ces rues le matin. Alors, bon, avec le Covid, tout ça, c'est arrêté. Il y a eu une pause. Les élus locaux ont changé, il y a eu des élections municipales, un nouveau maire est arrivé dans le quartier. Le tourisme festif reprend, mais avec quand même certaines règles un petit peu plus strictes. Et tous les touristes ne sont pas revenus quand même.
Mais évidemment, ce n'est pas non plus à l'image de la vie quotidienne de la ville. Hein. Cette ville est aussi connue pour l'eau. Alors d'abord, il y a le Danube, évidemment, qui est au cœur de l'expansion économique de Budapest, les cargos de fret international qui naviguent sur le Danube, avec un port qui peut accueillir des porte-containers. Mais ça, c'est peut-être pas la vie quotidienne des habitants, sauf ceux qui ont des emplois grâce au Danube. Mais il y a à Budapest des dizaines de sources d'eau thermale qui datent même des Romains.
Oui. Parce que les Romains avaient installé une garnison. Vous savez que la Hongrie, enfin, ils occupaient juste un petit bout de la Hongrie, ça s'appelait la Pannonie autrefois. Et ils avaient installé une garnison qui est devenue une ville qui s'appelait Aquincum, la ville des eaux. Parce que les Romains ont vu qu'il y avait des sources chaudes partout. Et en général, une ville thermale, c'est en général dans des endroits très ennuyeux. Hein. C'est des petites villes de montagne pour curistes où on s'ennuie à mourir. Là, à ma connaissance, Budapest est la seule capitale qui soit aussi une ville thermale.
Et c'est une des principales attractions touristiques, bien sûr. Alors, Florence, dans quelle mesure ça fait vraiment partie aussi de la vie quotidienne des Hongrois ? On écoute un extrait d'un de vos reportages. Des habitants racontent pourquoi ils aiment aller au bain.
Moi, je préférais le Széchenyi parce que je trouve qu'il est très, très beau, baroque. Et il a un cours qui est magnifique, mais trop cher. C'est la raison pour laquelle je n'y vais pas très souvent. Moi, je préfère à l'extérieur, même en hiver, parce que l'eau est chaude et c'est très joli avec les murs jaunes de Marie-Thérèse, et c'est fantastique. Il y a beaucoup de bassins à l'intérieur aussi, mais je préfère rester dehors. Tu traverses la neige dans une paire de pantoufles et hop, dans l'eau. Très facile.
C'est à la fois la lumière, les sons, la température de l'eau et la compagnie. Donc, j'y vais avec des amis, un ou plusieurs. Le soleil, en passant par la vitre, éclaire dans des couleurs différentes en fonction de la vitre de couleur. Et le plus de temps on le passe dans le bassin qui fait 37 degrés. Donc c'est la température du corps, c'est très confortable. On se sent très reposé après. Pratiquement on ne peut pas nager. On s'assied, on fait peut-être quelques pas, mais c'est fait pour se reposer. Il y a des gens qui mettent un maillot de bain, Il y a des gens qui mettent le tissu, disons, de 20 fois 30 cm qu'on donne au bain. Il y en a qui combinent les deux. On fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut. Alors, qui va au bain réellement à Budapest aujourd'hui, Florence Labruyère, dans cette ville aux deux visages?
Alors, à part les touristes, il y a bien sûr des Hongrois qui vont au bain après le travail. Il faut savoir qu'ils ont droit, un peu comme des chèques déjeuner, hein, ils ont des cartes qui données par leur employeur qui leur donnent des réductions d'entrée au bain. Parce que le prix des bains a quand même pas mal augmenté. Je crois que le RGBET que j'ai interviewé, qui disait qu'elle allait au bain Széchenyi, qui est à Pest, l'entrée est maintenant, ça doit être aux alentours de 20 euros.
Ah oui.
Donc c'est quand même. Alors bien sûr, on peut y rester des heures. On peut aller au sauna, au hammam. On peut aller dans les différents bassins. Il y a aussi des bassins ludiques avec des courants, des jacuzzi.
Il y a des vertus thérapeutiques en principe.
Oui,
absolument. De cette eau qui peut soigner l'arthrose, par exemple.
Chaque bain a une eau, parce que ce sont des sources différentes. Il y a même des sources qui jaillissent, qui sont sous le Danube, hein, et qui sont aussi exploitées. Donc ça peut être pour les problèmes cardiologiques, pour l'arthrose, effectivement, pour la circulation. Donc les Hongrois, ils vont effectivement assez volontiers, soit après le travail, soit pendant le week-end, et beaucoup en hiver, parce qu'effectivement, on peut plonger dans un bain très chaud après avoir traversé la petite passerelle ou le bout de sol qui est recouvert de neige.
Ces bains, vous le disiez, datent de l'époque romaine, mais il y a eu aussi l'époque des bains turcs, hein, de l'époque de la domination ottomane.
Oui, il y a encore plusieurs bains qui datent de l'époque turque, qui sont très beaux d'ailleurs, qui ont été rénovés. Et puis il y a des bains qui datent du 19e siècle, donc plutôt Art Nouveau comme architecture, Art Nouveau, Art Déco et même un peu Rococo. Donc on a vraiment comme une couche géologique qui raconte l'histoire de Budapest. On a des bains qui ont des architectures très différentes. Et puis, à part les bains, il y a aussi des piscines, alors qui ne sont pas d'eau thermale, mais ça c'est l'époque communiste. Il fallait que tout le monde fasse du sport. Alors, il y a des piscines absolument partout où on peut aller nager.
Cette histoire de Budapest, très métissée, très... très opprimé aussi, hein, par différentes occupations. Est-ce que ça suffit à expliquer, ou c'est un raccourci extrêmement simpliste, qu'aujourd'hui le régime autoritaire, conservateur, populiste s'appuie sur une vision très nationaliste du pays? Et comment c'est perceptible, ça, dans la capitale européenne? Dites-moi si je fais beaucoup trop de raccourcis, Florence.
Oui, non, mais c'est difficile à expliquer, parce que moi aussi, je me le demande un peu tous les jours. Mes amis hongrois aussi se demandent. Comment ça se fait comment se fait-il qu'un jeune politicien qui est Viktor Orban, qui a été un peu un dissident quand même, qui a lutté pour la démocratie, soit devenu un dirigeant autoritaire et qui démolit la démocratie, en gros, depuis 12 ans. Je crois que Viktor Orban d'abord est un politicien très intelligent, et que quand on arrive au pouvoir, peut-être que le pouvoir devient une drogue et qu'on a envie d'y rester, on n'a pas envie de laisser la place aux autres. Mais je crois que ce qui caractérise, ce qu'on peut retrouver dans l'histoire hongroise, c'est qu'en fait les Hongrois aiment bien la stabilité plus que le type de régime. Il y a eu des régimes très stables qui ont duré très longtemps. Au 19e siècle, il y a des dirigeants qui sont restés fin 19e, 30 ans au pouvoir. Les communistes sont quand même restés très longtemps. Et ce n'était pas un régime communiste aussi dur
de 44 qu'en Allemagne. À 89,
hein. Oui, ce n'était pas aussi dur qu'en Allemagne de l'Est ou qu'en Roumanie. Il y a eu des réformes économiques dans les années 60, fin des années 60, qui ont fait que les Hongrois pouvaient créer leur petite entreprise. Les banques se sont un petit peu ouvertes au capitalisme. Donc c'est un peu ça ce que recherchent les Hongrois, c'est la stabilité, c'est ce qu'ils veulent. Et même si tous n'aiment pas forcément tout ce que fait Viktor Orban, il leur promet la stabilité, en fait, depuis l'instant où il est au pouvoir. Alors c'est un petit peu en train de changer, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc là, il est en train de mettre en place, de lever des impôts partout, d'imposer des taxes partout. Alors là, je pense que les Hongrois vont peut-être commencer à dire « Ah, mais c'est pas si stable que ça ».
D'autant plus qu'il y a l'inflation. Bon, ça, on en reparlera, hein, pour tous les pays du monde. Mais Viktor Orban, vous le disiez, les caisses sont vides, mais il a lancé un vaste plan de rénovation urbaine, hein, puisqu'on parle de Budapest, pour gommer les traces du communisme, malgré les demandes de suspension de l'UNESCO, puisque le quartier où il y a la rénovation actuelle du Parlement est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Quelle est exactement l'idée de cette rénovation du Parlement ?
Alors, ce n'est pas seulement la place du Parlement, parce que des statues ont été déplacées. Donc, la place du Parlement, on a déplacé des statues, oui, qui est sur le Danube. Le Parlement, qui est un bâtiment absolument immense. Il faut, pour ceux qui n'ont pas vu de photos, c'est absolument énorme. Il y a 700 pièces dans, dans ce bâtiment. C'est grandiose. Ça a été construit au moment de la double monarchie, où l'Empire austro-hongrois avait deux capitales, en fait, Budapest et Vienne. Donc c'est un peu un rêve de grandeur. Ça symbolise un peu un rêve de grandeur. Alors toute la place a été refaite. On a en coupé beaucoup d'arbres. On a beaucoup bétonné. On a déplacé des statues. On a ajouté de nouvelles. Il y a deux raisons à cela. Je crois qu'idéologiquement, Viktor Orban et son régime, comme c'est un peu... Ils ont créé leur parti, un nouveau parti qui était un peu un parti étudiant progressiste au début, puis finalement qui a voulu devenir un parti conservateur, un peu comme les chrétiens démocrates en Allemagne. Ils essayent de se donner une légitimité historique, de se relier à quelque chose. Et ils ont décidé de rénover la place comme elle était pendant l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Ils veulent se relier idéologiquement à ce régime-là, qui n'était pas un régime formidable non plus. Hein. C'est la Hongrie était gouvernée par un régent autoritaire qui s'était allié à Hitler. Mais bon, et il y a aussi une deuxième raison à cela, c'est que quand on fait faire des travaux immenses de rénovation, on donne les contrats, les marchés publics à des entreprises, et ces entreprises gagnent beaucoup d'argent. Et ces entreprises, en fait, elles appartiennent soit à des hommes de paille du Viktor Orban, soit à des proches.
Orban lui-même est installé au monastère des Carmélites.
Hein. Oui, à Bouda. Il a déménagé son bureau il y a 2 ans. Il était avant, son bureau était dans le Parlement. Et effectivement, il a fait réaménager un monastère du XVIIIe siècle à Bouda, tout près du château de Bouda, sur la colline.
D'où il tient la presse à distance c'est plus simple topographiquement de privatiser la voie publique qui mène au monastère.
Oui, tout à fait, c'est plus simple parce que sur la place du Parlement, elle est publique. Donc il y a souvent des manifestations sur la place du Parlement.
Et oui.
Donc voilà, on s'éloigne des manifestants quand on va au château de Bouda. Et effectivement, à Bouda, le quartier est complètement bouclé. On ne peut même pas approcher à 100 mètres du bureau de Viktor Orban. Et puis de toute façon, il ne donne pas de conférence de presse. Enfin, il donne une conférence de presse une fois par an. Et encore, parfois, elle est annulée.
Comment l'urbanisme est si politique? Donc, comment a voté Budapest lors des dernières élections qui ont permis à Viktor Orban de rester Premier ministre?
Alors, Budapest est une ville d'opposition, est une ville libérale. Ce n'est pas vraiment une ville conservatrice. Donc, elle a voté pour des députés. Alors là, ce n'était pas des élections municipales. Hein. Là, c'était des élections nationales. Les députés législatives, les députés sont les députés d'opposition qui ont été élus. D'ailleurs, le parti de Viktor Orban s'y attendait. Parce qu'il avait mis en lice des candidats, des inconnus, des candidats qui n'avaient pas de poids. Il s'attendait à perdre. Et puis aux dernières élections municipales, toute la ville aussi a été gagnée par l'opposition.
On écoute des témoignages amers d'habitants devant l'échec de l'opposition pour une alternance politique à l'échelle nationale.
C'est la société que j'étudie depuis des dizaines d'années. Par contre, j'ai la famille et je pense que j'ai besoin un peu d'air parce qu'il y a de moins en moins d'air dans ce pays. J'ai vécu en France et je peux comparer comment ça c'est vivre dans un pays libre et dans un pays qui n'est pas libre. Et c'est vraiment déprimant.
Il y a 2,5 millions de fanatiques qui votent pour Orban et ils le suivront toujours, quoi qu'ils disent. Nous, on veut le changement. On voudrait que ce pays soit meilleur. Mais on n'a pas pu changer les choses. On y croyait pourtant. J'y crois toujours. Mais pour le moment, c'est fichu. Je vais m'en aller vers l'Ouest. L'Europe de l'Ouest. Ça fait 12 ans qu'Orban est au pouvoir. Bientôt, ça fera 16 ans. Ce n'est pas de la démocratie, ça. C'est une dictature. Et on n'en veut pas. On va quitter ce pays. J'envie les Suisses qui ne connaissent même pas le nom de leur Premier ministre. Je voudrais vivre libre, comme eux. Mais Viktor Orban m'en empêche. Ça me rend dingue.
La 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 la. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem a réget, kihízott nacim, viszem a kelet-német származású macim, ezernyi véglet közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest. Ott ez az ágyam, ahova fekszem, elviszem alvokának egy-két régi exem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ha lehet, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcára te nagyit. Ezernyi némán, a blicet évet, elviszem magammal a szentedrei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temető, viszem a csokoládé barna bőrű szerető. Kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké mozga-mozga teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Apuka titká, tanyuka aranyá, elviszem magammal a macskát meg a baranyát. Viszem a parcsit, viszem a karcsit, elviszem kenesítől kezdteik a balcsit. Viszek egy búval bevetett földet, viszem a pirosat, a fehéret, a zöldet. Elviszem ezt is, elviszem azt is, viszem a jó fiú, de elviszem a paszt is. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal. La 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 la.
Nous sommes à Budapest, vivre dans une ville aux deux visages, raconté par Florence Labruyère, correspondante pour RFI. Deux visages, Bouddha, Pest, les deux rives, de part et d'autre du Danube, en Hongrie, Florence Labruyère. Et puis il y a aussi, vous nous le disiez, ce désir de stabilité qui parfois pourrait expliquer aussi cet attrait pour Viktor Orban et cette envie d'ailleurs, on l'a entendu aussi dans les témoignages, cette envie d'air frais, de pouvoir respirer, de pouvoir s'exprimer. On a entendu une sociologue, on a entendu un étudiant et vous signez aussi le programme musical de l'émission. On va y revenir, Florence.
Oui, alors cet étudiant, Benedek, qui a 20 ans, je l'ai rencontré après la soirée électorale. J'étais à la soirée électorale de l'opposition où bien sûr l'ambiance était sinistre, absolument sinistre. Et dans le métro, j'ai rencontré Benedek avec ses copains. Il étudie les médias et la communication. C'est un Budapestois, il parle très bien anglais, donc ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de tous les jeunes. Et il a travaillé comme bénévole pour l'opposition avant les élections. Il a fait du porte-à-porte, il a fait les marchés, etc. Et il y avait quand même beaucoup de jeunes comme lui qui sont engagés comme volontaires. Le parti de Viktor Orban n'a plus de bénévoles. Moi, j'ai essayé d'interviewer des jeunes qui travaillaient pour le parti. Ils m'ont dit, mais non, je ne peux pas vous parler parce que moi, je suis payé, j'ai un contrat, j'ai un CDD. Donc, Viktor Orban, il paye des gens pour travailler pour lui. L'opposition avait réussi à déclencher un enthousiasme parmi cette jeune génération qui avait envie de changement. Et là, Benedek dit, je ne peux plus vivre dans ce pays, quoi. Enfin, il va terminer son diplôme et il envisage de partir, d'aller ailleurs. Mais quand je lui ai demandé, qu'est-ce qui te gêne vraiment dans ce régime? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre, en fait? Pourquoi tu manques d'air? Il m'a dit, c'est parce que le parti qui est au pouvoir, en fait, sème la haine, divise les gens. Et dans ma famille, tout le monde est divisé. Les gens n'arrêtent pas de s'engueuler si on commence à parler de politique.
Ça nous rappelle certains pays, les États-Unis, le Brésil.
Voilà, c'est un petit peu un régime à la Trump quand même. Et c'est ça que les jeunes ne supportent plus, le fait que leur famille écoute la propagande de la télé publique et croit à des choses totalement absurdes. Le parti au pouvoir, le parti de Viktor Orban, a par exemple dit que l'opposition voulait envoyer tous les jeunes hongrois se battre en Ukraine, ce qui est totalement faux. Mais sa famille, lui, y a cru. Et donc, cette chanson qu'on vient d'entendre, qui veut dire...
Kishtehen, le groupe.
Le groupe Kishtehen, alors qui s'est séparé il n'y a pas très longtemps, mais qui a quand même travaillé ensemble pendant 20 ans. La chanson date pas d'hier, elle date d'il y a 10 ans, mais elle est toujours d'actualité. Le titre signifie « J'emmène tout ça avec moi ». Et le chanteur, en fait, parle de quelqu'un qui émigre, qui est en train de partir, et qui se dit, ben, qu'est-ce que j'emmène ? J'emmène aussi mon école maternelle, j'emmène le cimetière, j'emmène les blondes et les brunes, j'emmène mes potes que j'aime bien, puis j'emmène aussi ceux que j'aime pas. Parce que, et au-delà du fait que les Hongrois sont très casaniers, on l'a vu, leur langue est vraiment bizarre, elle n'est parlée par nulle part. Ils n'ont pas vraiment envie d'émigrer. C'est pas des gens qui émigrent.
C'est une chanson qui nous brise le cœur, là, si on comprenait le hongrois.
Oui, oui, mais en même temps, au plan philosophique, je trouve que elle parle plus que d'émigration. En fait, elle dit, ben, finalement, quand on part, on est fait de tout ça aussi. Donc, on peut pas laisser les mauvaises choses de côté. En fait, il faut vivre avec tout ce qu'on a vécu de bien et tout ce qu'on a vécu de mal. Et ça, c'est vrai pour tous les gens qui émigrent, a fortiori pour ceux qui sont contraints d'émigrer, qui ne choisissent pas. Ben voilà, il faut emmener tout ça, tout ce qui fait la richesse d'un être humain, ses souvenirs, les bons, les mauvais. Ben, il faut les emmener.
Mais ces départs, ils ne datent pas d'hier, parce qu'on a entre 2008 et 2018, selon l'OCDE, plus d'un million de citoyens hongrois qui auraient quitté le pays. Est-ce que c'était déjà pour des raisons politiques ou également économiques? Ça semble beaucoup pour un si
petit
pays.
Oui, alors, les chiffres sont très, très variables. Hein. En fait, les chiffres officiels, au cours des 12 dernières années, selon le CDE, en fait, ce serait un peu moins, 632 000. Eurostat lui donne 427 000. Mais ça, personne, hongrois, qui travaillerait à l'étranger. Mais ça, ce sont des gens qui ont des contrats, qui sont enregistrés. Qui ont signalé aux impôts, à la sécurité sociale,
ils
ont un contrat.
Qui partent en Europe, de toute façon,
voilà,
qui restent dans l'Union européenne.
La grande majorité reste dans l'Union européenne. Mais on estime, effectivement, comme vous l'avez dit, que le chiffre véritable est sans doute plus proche du million, parce qu'il y a des tas de gens qui partent, qui ont déjà... Il y a une espèce de mobilité, en fait, temporaire. Moi, je connais des médecins qui ont toujours un poste de médecin en Hongrie, mais le week-end... On les voit à l'aéroport avec leur petit sac à dos. Ils vont passer 3 jours ou 4 jours à Liverpool, à Manchester, pour travailler comme anesthésiste, pour faire des vacations. Et ensuite, ils reviennent. Donc, ils ne sont pas comptés...
Pour faire de l'argent, quand même.
Pour faire de l'argent, ouais. Ils ne sont pas comptés comme émigrants, en fait.
C'est ce qu'on pourrait appeler la migration pendulaire. Comment est perceptible, dans l'autre sens, on va parler des immigrés, comment est perceptible la politique migratoire très restrictive, c'est le moins qu'on puisse dire, de Viktor Orban, dans la capitale Budapest. Est-ce qu'on voit de la main-d'œuvre non européenne dans les bars, dans les restaurants, sur tous les secteurs qui sont extrêmement tendus, par exemple pour nous en France, hein, où on a besoin de cette aide de travailleurs étrangers hors Union européenne?
On ne voit pas vraiment beaucoup, on en voit très peu de la main-d'œuvre non européenne. Ce sont surtout des Européens qui viennent travailler à Budapest. Alors oui, pour revenir sur ce que veut le gouvernement de Viktor Orban, le gouvernement Orban dit toujours qu'il est contre l'émigration illégale. Il ne dit pas qu'il est contre l'émigration légale. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour les employeurs.
Encore faut-il avoir un visa.
Hein. Oui, voilà. Et puis, il y a là aussi les questions de langue. Moi, je connais un restaurateur à Budapest qui était très content d'engager un réfugié congolais qui avait réussi, mais ça, c'est date déjà d'il y a quelques années, avait réussi à avoir le droit d'asile, qui avait appris le hongrois. Parce que si on veut travailler, il faut aussi apprendre le hongrois. C'est ça le problème. Ce n'est pas du tout un pays francophone. Donc, quand on vient d'un pays francophone, c'est vraiment très difficile. Anglophone, allemand,
oui.
on peut s'arranger.
Le n'est pas plus difficile que l'allemand et il y a énormément d'étrangers hors Union européenne en Allemagne.
Oui, oui, c'est vrai. On dit que... Oui. Mais en revanche, il y a une main-d'œuvre étrangère qui est substantielle en dehors de Budapest. Parce que les usines, les grandes usines, se trouvent en province. Et là, il y a les entreprises font venir des ouvriers, en général, sont des ouvriers qualifiés, hein, de Mongolie, de l'Inde, de Turquie. La Hongrie a vraiment besoin de cette main-d'œuvre étrangère qualifiée parce que, par exemple, à 2 heures de route de Budapest, il y a une grande usine pétrochimique du groupe industriel MOL. MOL, c'est un peu comme le groupe Total, mais en Hongrie, il achète du pétrole, du gaz et puis il raffine, il fabrique des produits pétrochimiques. MOL est en train d'agrandir cette usine. Ils emploient des sous-traitants. MOL emploie ainsi une entreprise turque. Et c'est cette entreprise turque qui recrute des ouvriers qualifiés turcs parce qu'ils ne trouvent pas de Hongrois, en fait, pour faire ce genre de travail. C'est du chantier compliqué. Hein. C'est pas de la construction simple.
Vous nous le disiez au début de l'émission, Budapest est une ville aérée, hein, assez verte. Il y a aussi des banlieues, hein, qui coûtent moins cher. On reparlera bien sûr du prix des logements. Mais comment sont organisés les transports pour aller des quartiers les plus périphériques à son lieu de travail, que ce soit dans Budapest, à l'extérieur?
Alors, si on parle de Budapest seulement, hein, pas de la grande banlieue, le réseau de transport est assez exceptionnel. C'est la ville la plus maillée au monde. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est à moins de 500 mètres d'un arrêt de bus, d'une station de métro, d'une station de tram ou d'une station de trolley.
Donc, on n'a pas besoin de voiture.
On n'a absolument pas besoin de voiture. C'est une ville assez fantastique, je dois dire, si je la compare à d'autres villes où je suis allée ou à Paris. Même la nuit, quand il n'y a plus de métro, il y a des bus qui prennent le relais du métro. On peut circuler la nuit assez facilement, sans
pas
problème.
Pas d'insécurité ?
Pas d'insécurité. C'est une ville où il y a une grande sécurité, ce qui est aussi assez rare dans les capitales aujourd'hui.
Et ces transports sont abordables pour les moins fortunés, pour les petits salaires?
Alors les transports publics à Budapest, ça c'est une décision du maire de Budapest, et sont maintenant gratuits pour les moins de 14 ans. Depuis longtemps, ils sont gratuits pour les plus de 65 ans. Donc les retraités qui ont en général des petits moyens circulent gratuitement, également sur le réseau ferroviaire. Hein. Ça dépend de l'entreprise où on travaille, parce qu'il y a des entreprises qui contribuent et d'autres qui contribuent pas au pass, au forfait en fait de transport.
Transport gratuit pour les plus de 65 ans, on l'a pas encore dit, mais la Hongrie est un pays avec un faible taux de fécondité, un faible taux de natalité. Budapest est une ville de gens plutôt âgés, Florence Labruyère, vous diriez?
Alors là, je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense que c'est vraiment le cas du pays, plutôt. Et tout dépend. Si on compare Budapest à un petit village de province, non, le petit village de province, il n'y a que des retraités qui y habitent.
Bien sûr, parce qu'il y a les universités.
Oui, il y a quand même les universités. Il y a quand même aussi des étudiants étrangers qui viennent étudier, par exemple, qui viennent faire l'école vétérinaire de Budapest ou l'école de dentisterie, parce que les cours sont donnés en anglais et en Allemagne. On est en allemand, pardon. Et j'ai rencontré des étudiants iraniens qui m'ont dit en Iran, les cours sont pas bons, c'est trop cher. Je vais pas aller aux États-Unis, c'est trop cher. La Hongrie, c'est parfait pour moi, c'est pas trop cher, c'est en anglais, j'aurai un bon diplôme.
Budapest, une ville aux deux visages. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Florence Labruyère. Une ville urbaine et en même temps un peu à la campagne, vous nous l'avez dit. D'abord parce qu'on sort facilement de la ville, parce qu'il y a aussi beaucoup d'espaces verts dans cette ville très étendue de près de 500 km². Je ne sais pas si vous avez déjà donné le chiffre, je ne crois pas.
525 km².
Ouais. Oui. Très étendue.
Très
par
étendue.
Par rapport au nombre d'habitants.
Parce oui. Pour 1 700 000 habitants, donc une densité assez faible.
Vous êtes amusé à faire une comparaison avec Dakar.
Oui, voilà. Alors Dakar, je crois que la ville même ne fait que 83 km², mais la région de Dakar fait 550 km². Donc entre la région de Dakar et la ville de Budapest, on est à peu près une superficie comparable. Mais dans la densité à Budapest, c'est 3300 habitants au kilomètre carré. À Dakar même, j'ai vu les chiffres, je crois que c'est près de 18 000 habitants au kilomètre carré. On est un peu comme à Paris. À Paris, on est 21 000, donc des villes très denses. Hein. Alors que Budapest est un peu comme Vienne, d'ailleurs, un peu la même densité des villes.
On ne se marche pas sur les pieds.
On ne se marche pas sur les pieds, voilà. On respire. On trouve très souvent une place assise dans le métro.
Florence Labruyère, nous parlons de cette vie quotidienne dans cette ville aux deux visages, Budapest. Budapest, où dans les logements, il y a une toute petite pièce dans les appartements, comme dans les maisons à la campagne, d'ailleurs. C'est le garde-manger, le Kajibi, en tout cas c'est comme ça qu'on dit en français, un peu comme une arrière-cuisine qui sert à stocker de la nourriture. On écoute.
Et en fait, ça veut tout simplement dire un garde-manger. C'est un petit garde-manger. Et le jour où on en a parlé, j'ai dit, mais c'est marrant, c'est le jour où je me suis dit, il me faudrait un Speis chez moi. Ça manque. C'est imagine un petit Kajibi avec de la place pour mettre les bocaux de conserve, les jambons qui sont accrochés et qui sèchent tout doucement, les boîtes de conserve, les œufs qu'on met pas au frigo directement, etc. C'est très très pratique. Les sacs de patates, où est-ce que tu veux mettre des sacs de patates de 10 kilos? Voilà. De plus en plus, je vois des jeunes qui s'installent et qui disent « Ah ben non, ici il faudra le Speis, il faut penser au Speis, on a besoin du Speis ». Il y a pas mal d'expressions, faire des économies, mettre des choses de côté, Bespeisolni, donc bien mettre tout ça de côté pour qu'on puisse l'utiliser un peu plus tard.
Le Speis ou le garde-manger dans les appartements à Budapest, avec vous Florence Labruyère. Ce Speis, il raconte un peu l'histoire aussi de l'habitat à Budapest.
Oui, effectivement, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les communistes sont arrivés au pouvoir. Et tous ces grands appartements, ils les ont coupés alloués à différentes familles. Donc parfois, il y a une dizaine de familles qui s'est retrouvées à habiter. C'est devenu des appartements communautaires, un peu comme en Russie.
Où on partageait la cuisine.
Alors, en Hongrie, ça s'est passé de manière différente. Il n'y avait pas toujours de cuisine commune. Chacun pouvait avoir sa cuisine, mais le résultat, c'était que chaque famille avait un petit appartement. Mais on a rajouté des tuyaux, on a rajouté des arrivées d'eau, donc ça a beaucoup alourdi le poids des immeubles aussi. Alors après 89, à la chute du communisme, les Budapestois, qui étaient donc locataires, qui louaient ça à la municipalité, les propriétaires c'était l'État, la municipalité, ont pu acheter leur appartement, ont pu devenir propriétaires. La municipalité leur a vendu à prix très préférentiel, et donc ils se sont retrouvés propriétaires. Ce qui était aussi un peu un cadeau empoisonné, parce que quand on est propriétaire, on a des charges. Il faut entretenir l'immeuble. Donc très souvent, moi, jusque dans les années 2000 et même encore maintenant, je vais chez quelqu'un, l'appartement est super, mais alors la cage d'escalier est dans un état épouvantable, les murs n'ont pas été refaits depuis des lustres.
Il n'y a pas cette culture de la copropriété où il faut débourser.
Il faut débourser. Alors certains ont trouvé un moyen. Quand les copropriétaires s'entendent, ce qui est aussi une autre paire de manches, ils ont trouvé un moyen. Ils font surélever l'immeuble par une entreprise qui rajoute un étage et qui va pouvoir vendre ses mètres carrés supplémentaires. Et en échange, l'entreprise soit fait le ravalement, soit rénove la cage d'escalier, etc.
Et ce Speis, ce garde-manger, il est redevenu assez prisé, en tout cas assez intéressant pour les jeunes générations dans leurs appartements actuels.
Oui,
pourquoi,
oui,
qu'est-ce
tout
que
à
ça
fait.
Dit de ça, de leur mode de vie?
C'est aussi un peu l'idée qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Surtout avec l'inflation, là, où le prix des œufs a triplé depuis quelques mois. Donc on se dit, il vaut mieux, on va épargner, on va se faire un petit stock.
Oui,
ça, c'est très hongrois, se faire des petits stocks.
Un petit stock, mais
oui.
Dans une société de consommation, on a aussi le Uber Eats aussi, où on peut se faire livrer des pizzas, etc.
Absolument.
Ça cohabite, finalement.
Absolument. Ça, c'est plutôt, ça va être plutôt les jeunes couples. Oui, les jeunes couples un peu branchés qui vont...
Donc ce garde-manger, c'est aujourd'hui le retour d'un symbole de la sécurité alimentaire.
Oui, et puis quelque chose de traditionnel qui rappelle aussi un petit peu les jeunes qui veulent faire installer ça, c'est parce qu'ils ont eu une grand-mère qui avait un Speis aussi. C'est un petit peu le retour à la tradition.
Ouais, et puis même dans la langue, vous l'avez raconté dans un reportage, il y a un film des années 50 qui a donné naissance à cette phrase culte. Les Russes sont déjà dans le garde-manger, dans le Speis.
Oui, parce que ça raconte l'histoire d'un château dans lequel des tas de gens différents se sont réfugiés à la fin de la guerre. Et vous savez que la Hongrie était occupée par les Allemands, mais les Russes arrivaient par l'Est. Et ces gens qui sont dans le château, en fait, ils n'ont aucune nouvelle, donc ils ne savent pas du tout où on en est, si la guerre a été perdue par les Allemands, gagnée par les Russes, etc. Et alors, ils survivent grâce à tous les pots de confiture et de conserve qu'il y a dans ce Speis. Le château a été abandonné par les propriétaires. Et un jour, il y en a un qui va dans le Speis, il prend un pot de confiture, et derrière le pot de confiture, il y a un soldat russe. Donc voilà,
aujourd'hui, on dit quoi? On dit quand on a des invités qui arrivent en avance, ils sont déjà dans le Speis, ça veut dire.
En fait, c'est devenu une phrase culte. Quand on dit les Russes sont déjà dans le garde-manger, ça veut dire il est trop tard, c'est plus la peine là, c'est fichu, c'est plus la peine de faire un effort.
Pour le réchauffement climatique, on pourrait peut-être dire ça, hein, que le réchauffement est déjà dans le garde-manger.
Ouais,
Florence Labruyère, il nous reste encore une petite minute pour parler de cette campagne omniprésente autour de Budapest pour ceux qui ont les moyens, mais en réalité, même si on n'a pas sa datcha pour passer le week-end. On peut aller avec un tramway à l'extérieur, sur les collines, et l'hiver, ça a gardé tout son attrait avec la neige.
Tout à fait. En 20 minutes, on est en haut de la colline. Le point le plus élevé, c'est 527 mètres quand même. Et les hivers où il y a de la neige, c'est pas tout le temps, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y en a de moins en moins. Mais quand il y a de la neige, on voit les familles dans le tram ou dans le bus avec des luges ou des skis de fond. parce qu'on peut effectivement se transformer en montagnard à peu de frais. Voilà, on peut aller faire de la luge ou faire du ski de fond dans les bois de Bouda. Et 20 minutes avant, on était en plein centre-ville.
Et quand la neige arrive, tout le monde prend sa journée de congé ?
Alors, il y en a qui le font, oui, oui, parce que ça devient de plus en plus rare, une bonne journée avec une bonne chute de neige. J'ai des amis, effectivement, qui ont séché les cours pour aller accompagner leurs enfants faire de la luge parce qu'ils avaient peur que ça soit fondu le lendemain.
Merci Florence Labruyère de nous avoir fait partager ces tranches de vie à Budapest, la ville aux deux visages. Si un jour vous quittez Budapest ou quand vous êtes loin de Budapest, quand vous êtes en France par exemple en ce moment pour l'été, qu'est-ce qui vous manque de cette ville dans laquelle vous vivez depuis près de 30 ans, Florence ?
Ben peut-être les bois, justement, cette facilité d'aller dans le bois où j'entends vraiment que les oiseaux. Je crois que le bruit...
Dans une capitale européenne, tout de même.
Oui, mais le bruit de la métropole parisienne ne me manque pas du tout. Ce qui me manque, c'est un peu ce silence et ces oiseaux qu'on peut entendre très, très facilement.
Merci à vous, Florence Labruyère. On se quitte avec votre dernier choix musical. C'est du rap hongrois, cette fois-ci. C'est le groupe Punani Massif, Freedom Song.
Szavamra szomorú szándékot szenvedés. Napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vérceld már meg, hisz szép volt az a szavás, mint a ellenségedből lehet még mestered, ki megtanítja, hogy mindig is benned volt, és lesz is a karizma. Elvek a jellem, páncél az, amit most tavítos, de másokat ne sérts, vigyázz, a szabadság nem szabados. Aki haragos, az nem ad esélyt, az inkább verbeléd. Primer probléma az önös harcok vertekép. Engedd el, jöjjön, minek jönnie kell szabadon. Nem megakadni nőkön hozzá címzett átkos szavakon. Csak lazán, mély levegő és ének, nincs itt félelem. Hisz szabad vagy az élet, örök a lélek, végtelen. Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitanít. Egekbe repít, egyszer süllyed, mind a titanék. Enyém minden gondolat, eldobom minden gondomat. Bármi megtörténhet, foglalt a szabad akarat. A mesztelenség elve, hogy kitárul az elme. De kihat a szemre, a helyszíni szemle. Ragad a pillanat, ha egy döntést én hozok meg. Ha választani kell, azt úgyis én tudom meg. A szabadság szó önmagában gyengéd vacsák. Definiált elvek, hogy a lényeg.
Sept milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette série d'été. À la réalisation de David Brockway, préparation Juliette Bro. Suite de notre série d'été, Vivre en ville. Demain, nous serons dans une toute autre ambiance. Vivre dans une ville maravillosa. Rio de Janeiro, au Brésil. Le rendez-vous est à 10h10, temps universel. Et toutes nos émissions sont dispo en podcast et le programme musical, bien sûr, des villes, sur nos réseaux sociaux, Instagram, 7 milliards RFI, Facebook, bien sûr aussi. À demain.